Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique qui cherche à redonner espoir grâce à l'évangile de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, Yann et Robert vont suivre Abraham dans ses déplacements. Nous rappelons qu'Abraham est un homme rencontré au début de la Bible. Ensuite, nous aurons un nouvel invité, Jean-Yves, qui partagera une méditation biblique sur le thème de la nouvelle création.
Le déménagement est l'un des événements qui peut ponctuer nos vies, pour le bien ou pour le mal. Nous pouvons être amenés à quitter un endroit pour diverses raisons, heureuses ou malheureuses. Souvent, les jeunes doivent quitter le village pour aller dans une grande ville, que ce soit à cause des études ou bien pour la recherche d'un travail. Parfois, des circonstances tragiques ou douloureuses peuvent pousser des familles entières à partir pour fuir la guerre, la famine, les catastrophes naturelles. Ces familles, ces réfugiés, cherchent à établir une nouvelle vie ailleurs. Ils cherchent parfois tout simplement à survivre. Ces déplacements, ces déménagements suscitent des émotions confuses. L'espoir d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, mais aussi appréhension et angoisse devant les incertitudes. La personne biblique, appelée Abraham, connut bien des pérégrinations. Il a quitté des lieux où il était bien installé pour partir vers l'inconnu. Nous sommes en train de réfléchir sur sa vie et mon invité Robert est ici pour partager ses pensées. Bonjour Robert.
Merci et bonjour à tous.
Robert, je viens d'introduire notre sujet pour aujourd'hui, celui des déménagements. Pouvez-vous expliquer dans quelles circonstances Abraham fut amené à quitter un lieu pour un autre?
Oui, d'abord, Abraham a été obligé de suivre son père qui a conduit sa famille de la ville d'Ur jusqu'à Charan. Un voyage de 1000 kilomètres. Après le décès de son père, Abraham devient le chef de famille et quitte Charan pour aller en Canaan. Cette fois-ci, un voyage de 500 kilomètres. Il devait entreprendre ses voyages à pied ou à dos d'âne, en compagnie de tous leurs troupeaux et avec leurs bagages chargés sur des bêtes de somme. Il est important de noter toutefois que si Abraham est parti vers l'inconnu, en Canaan, c'était par obéissance à l'appel de Dieu. Nous lisons en Genèse, chapitre 12, verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » D'ailleurs, cet appel s'accompagne de promesses. Dieu dit à Abraham, qui était vieux, sans enfant et sans terre, qu'il aura une descendance nombreuse et qu'il deviendra une nation dans son propre pays. Abraham est parti vers l'inconnu, convaincu que Dieu accomplira ses promesses.
Nous voyons ainsi la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Mais en quoi cet exemple peut-il nous être utile? Car la plupart de nos déménagements ne se font pas suite à un appel très clair de Dieu et ne s'accompagnent pas de promesses si précieuses.
Nous ne devons pas exclure la possibilité que Dieu nous appelle à changer d'orientation dans nos vies, ce qui peut impliquer un déménagement. Vous avez toutefois raison dans la mesure où la plupart des déménagements ont lieu, soit à cause d'une obligation quelconque, soit suite à un choix personnel. D'ailleurs, Abraham s'est beaucoup déplacé, même après son arrivée dans la contrée de Canaan. Une fois, une famine l'a poussé à quitter ce pays pour aller séjourner en Égypte. Je pense que nous pouvons apprendre de l'exemple d'Abraham et s'inspirer de sa foi.
Et quelle leçon voulez-vous souligner ?
Ce qu'il faut retenir, par-dessus toute autre chose, c'est qu'Abraham savait que là où il irait, son Dieu serait avec lui. Cette conviction est étonnante, car à l'époque d'Abraham, les gens avaient l'habitude de penser que chaque région, chaque pays ou chaque tribu avait son propre Dieu, et que si l'on partait ailleurs, on risquait de sortir du territoire où régnait son Dieu. Abraham avait appris quelque chose sur le seul vrai Dieu. Il avait appris que Dieu se trouve partout. D'ailleurs, dans le récit de la vie d'Abraham, raconté dans le livre de la Genèse, Dieu se présente souvent sous le nom de Yahweh, l'Éternel. Ce nom suggère que Dieu n'a de limite, ni dans le temps. Il a toujours existé, il existera toujours, ni dans l'espace. Dieu, l'Éternel, est présent partout.
Mais en quoi cette conviction que Dieu est partout peut-elle aider ceux qui se trouvent sur le point de quitter une région pour une autre ?
Que l'on parte précipitamment ou que ce soit un projet bien préparé, un tel événement implique beaucoup de changements. On doit laisser tant de choses derrière soi, des amis, de la famille parfois, des lieux où on se sent à l'aise. On part vers l'inconnu avec tout ce que cela représente de redoutable. Mais pour Abraham, il y avait une personne qu'il n'a jamais quittée. Une personne qui ne le quittera jamais. L'Éternel, son Dieu. À chaque étape de ces péripéties, nous lisons que l'Éternel apparut à Abraham pour dire non seulement « Je suis là, avec toi », mais pour réaffirmer qu'il allait accomplir toutes ses promesses. Souvenez-vous que l'on parle en termes d'amitié entre Abraham et Dieu. Dans tous ses déplacements, Abraham avait quelqu'un en qui se confier, sur qui s'appuyer, quelqu'un qui ne changeait pas, alors que tout changeait autour de lui. Face à la nouveauté de personnes et de lieux inconnus, nous pouvons nous sentir seuls, désorientés et vulnérables. Mais si nous avons cette conviction, cette foi que Dieu nous accompagne, cela peut être une source d'assurance et de confiance qui nous aidera à assumer notre nouvelle situation.
Oui, je comprends. La vie est pleine d'incertitudes, mais si nous avons cette foi en l'Éternel, nous aurons la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera toujours là et que nous pouvons compter sur lui. Mais l'Éternel avait promis à Abraham qu'il aurait une famille, c'est-à-dire une descendance, une terre aussi, et qu'il deviendrait une nation. Y a-t-il des leçons que nous pouvons tirer de ces trois promesses?
Ces promesses ont été données à Abraham. Elles ne s'appliquent pas à nous directement. D'ailleurs, Abraham a longtemps attendu leur accomplissement. Mais pendant de longues années, il a gardé la foi. Toutefois, si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes des descendants spirituels d'Abraham. Et dans un sens, Dieu promet de nous donner une nouvelle famille et une nouvelle terre.
Quelle est donc cette nouvelle famille dont vous parlez?
Le Nouveau Testament dit que Dieu est notre Père et que Jésus-Christ est notre frère. Où que nous allions, cette famille demeure inébranlable. Par la foi, nous sommes inséparablement liés à Dieu, le Père et le Fils. En plus, on peut dire que l'Église est notre famille. Et quand nous sommes amenés à quitter un endroit pour aller ailleurs, il est toujours bon de chercher une Église, car nous y trouverons tout de suite une nouvelle famille. Des personnes qui, si elles montrent l'amour de Christ comme il le faut, nous accueilleront et nous aideront à nous installer.
Et en ce qui concerne une nouvelle terre, quel est le sens de cette promesse?
Je vois là une image de notre héritage éternel que nous recevrons après la résurrection d'entre les morts. Du moins pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Abraham a vu la terre dont ses descendants devaient hériter. Il a parcouru cette terre. Cette terre ne lui appartenait pas. Ce serait pour plus tard. Cependant, Abraham demeurait confiant, sûr que la promesse s'accomplirait. C'est un rappel pour le croyant. Sur cette terre, nous ne sommes pas vraiment chez nous, mais nous voyageons vers un meilleur avenir, la vie éternelle.
Comme c'est rassurant pour le chrétien d'avoir l'assurance que là où il se trouve, le Seigneur est avec lui. Et que partout où il ira, le Seigneur l'accompagnera. Ce fut l'expérience d'Abraham, et Jésus a promis à ses disciples qu'il serait avec eux, tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Il faut le dire, tous ne bénéficient pas de cette assurance, car pour pouvoir jouir des merveilleuses promesses de la Bible, il faut être chrétien. Et selon la Bible, pour être chrétien, il faut être créé de nouveau. Notre nouvel invité, Jean-Yves, va nous expliquer ce que cela signifie. Mais avant, Hélène va lire un texte biblique à ce sujet. Il s'agit de 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17.
Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là.
Lorsque l'on s'arrête pour contempler la nature, l'on ne peut qu'admirer sa beauté. que ce soit la beauté majestueuse des étoiles étincelantes la nuit ou la beauté délicate des fleurs et des papillons. Le Dieu créateur s'est aussi permis d'admirer la beauté de son œuvre. Il s'est réjoui de dire de sa création, encore dans son état d'innocence, qu'elle était bonne, même très bonne. Toutefois, si nous regardons l'humanité, nous y trouvons non seulement la beauté, mais aussi la fragilité et la méchanceté. Les hommes et les femmes ont réalisé bien des actes positifs à travers les siècles. Chaque civilisation a produit ses œuvres d'art, ses découvertes et ses inventions, contribuant à améliorer la qualité de nos vies. Pourtant, notre capacité à former de beaux projets est accompagnée par notre pouvoir de faire le mal. L'injustice, la violence et l'égoïsme trouvent leur place trop facilement dans nos sociétés, n'apportant que souffrance et conflit. Toutefois, ne montrons pas les autres du doigt, car un simple regard sur nos propres cœurs révèle qu'il y réside des pensées, des paroles et des gestes loin d'être louables, car trop souvent empreints d'égoïsme et de méchanceté. Tout comme un enfant insatisfait par son propre dessein aime le gommer pour le recommencer, nous aimerions enrayer le mal du monde et prendre un nouveau départ. Les tentatives des hommes ont toutes échoué, mais il ne faut pas se désespérer, car la Bible dit « Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau ». Jésus-Christ, envoyé par Dieu, était l'homme par excellence, l'homme idéal, en qui il n'y avait ni méchanceté, ni égoïsme. Il est l'homme que nous devons regarder comme un modèle. Toutefois, malgré nos propres efforts, nous trouvons dans l'impossibilité de suivre son exemple. La Bible est très claire. Dieu veut nous façonner, nous recréer à l'image de Christ. Tout comme l'origine de l'univers se trouve dans l'acte créateur du Dieu Tout-Puissant, Dieu exerce cette puissance créatrice pour faire de nous de nouvelles personnes, pour nous faire entrer dans une nouvelle vie. En quoi consiste donc ce changement si radical et merveilleux pour que l'on puisse parler de nouvelles créations ? Quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, ils connaissaient Dieu. Ils pouvaient entretenir une amitié avec lui, le suivre, se réjouir de sa compagnie. Ils vivaient dans un monde bien meilleur et heureux. Mais ce privilège et cette vie formidable ont été perdus dès qu'ils ont décidé de désobéir à Dieu. Dire du croyant qu'il est une nouvelle création, c'est affirmer que Dieu lui a redonné ses possibilités perdues lors de la chute d'Adam et d'Ève. Celui qui a été créé de nouveau apprend à connaître Dieu. Il peut communiquer avec lui et il possède l'assurance de se retrouver en sa présence quand il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Sans être une nouvelle création, ces choses sont impossibles.
C'est formidable de savoir que Dieu peut changer nos vies, et même s'il est un véritable gâchis, il est capable d'en faire quelque chose de nouveau et de beau.
Jean-Yves sera de retour la prochaine fois pour nous faire part de la suite de ses pensées sur ce thème de la nouvelle création. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.